Donc, le thème, c'est tout un cycle qui a été mis en place. Et le thème, aujourd'hui, c'est pas de république sociale sans protection sociale solidaire. Donc, je vais essayer de vous expliquer par la façon dont a été construite la sécurité sociale d'un autre pays, sécurité sociale sur des bases de solidarité, comment ça a permis aux citoyens, au peuple français, à la sortie de la guerre, d'exprimer pleinement leur citoyenneté et de gagner des acquis sociaux fondamentaux. Donc, ça a été le premier ciment de la cohésion sociale après-guerre, la création de la sécurité sociale, sachant qu'aujourd'hui, c'est le premier budget, ça représente 31,3% du PIB en France, c'est plus de 80% au-dessus du budget total de l'État, tout ministère confondu. Donc, en donnant ces éléments d'appréciation, on mesure l'enjeu que ça peut représenter, l'enjeu en termes social, c'est cette masse financière mise à la disposition du social dans notre pays, social dans toute sa dimension, hein, on n'est pas que sur la maladie, hein, on prend bien la protection sociale dans toute sa dimension, mais l'enjeu aussi, bien évidemment, pour les marchés financiers à qui aujourd'hui cette masse financière échappe encore en grande partie. Donc, la sécurité sociale, on a coutume de l'appeler la colonne vertébrale de la protection sociale dans son ensemble dans notre pays. La sécurité sociale, elle couvre la maladie, elle couvre la famille avec les caisses d'allocation familiale, elle couvre la retraite et elle a aussi tout un réseau de recouvrement des cotisations sociales auprès des entreprises. Une des principales sources de financement. Et pourtant, dès la création de la sécurité sociale, qui a été le phare du programme du Conseil national de la Résistance, l'expression instituée du principe républicain de solidarité, et pendant 22 ans, ça a été une gestion hors de la logique du marché et de la logique étatiste. Alors, je vais maintenant arriver sur un peu l'historique pour vous faire comprendre pourquoi, pendant 22 ans, dans le début de sa création, la sécurité sociale a été complètement en dehors des marchés financiers et n'a pas été sous la mainmise de l'État. Alors, ça fait maintenant 43 ans donc qu'elle est attaquée dans ses principes, dans ses fondamentaux. Et par conséquent, on voit un accroissement des inégalités sociales dans notre pays, qui rompt avec les principes même républicains, principes qui normalement sont fondés sur les bases de solidarité et d'égalité. Je terminerai mon intervention par des pistes alternatives, parce qu'on ne peut pas rester, l'objectif n'est pas de rester sur un constat d'échec à un moment donné, mais c'est bien l'objectif de démontrer qu'à un moment donné, il a été possible, dans un pays comme était la France après-guerre, de construire la sécurité sociale avec tout ce que ça représente. Et pourquoi aujourd'hui, dans un pays riche comme le nôtre, parce que nous sommes encore un pays riche, il ne serait pas possible de couvrir l'intégralité des besoins sociaux de notre pays. Alors, donc je disais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays était ravagé, Pierre Larocque, qui a été un des pères fondateurs de la sécurité sociale, c'est un nom Alors peut-être qu'il ne vous dit rien, mais ça a été avec Ambroise Croizat, ça a été, on a souvent coutume de les appeler les deux pères fondateurs de la sécurité sociale. Donc Pierre Laroque était convaincu que la sécurité sociale devait être l'affaire des travailleurs, qu'elle était partie intégrante de leur salaire et qu'il convenait de la défendre au même titre que celui acquis quotidiennement dans l'entreprise. Et il s'exprimait en ces termes. Je le cite, « Rien ne pourra se faire sans vous », leur disait-il. « La sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle a besoin de vos mains. » Et en ces termes, il s'exprimait en direction des travailleurs. Ambroise Croizat, qui était alors donc ministre du Travail et qui a été celui qui a fait voter la loi instituant la sécurité sociale, déclarait à la tribune de l'Assemblée nationale à cette occasion « Cette grande réforme n'appartient à aucun parti, aucun groupement et à aucune confession. » Cette sécurité née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, on était juste à la sortie de la guerre, appartient et doit appartenir à tous les Français et à toutes les Françaises, sans considération politique, philosophique ou religieuse. C'est la terrible épreuve que notre pays subit depuis plusieurs générations qui impose ce plan national et cohérent de sécurité. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel les pères fondateurs de la sécurité sociale étaient à ce moment. Donc, la sécurité sociale, c'est également l'avènement de la société salariale et solidaire dans toute sa plénitude. Il faut savoir qu'avant-guerre, la majorité des travailleurs n'étaient pas des travailleurs salariés. Il y avait un monde rural très, très important. Et donc il n'y avait pas la mensualisation comme on a aujourd'hui quand on est salarié. Il y avait encore ce qu'on appelait fut un temps des tâcherons, c'est-à-dire des gens qui travaillaient de ferme en ferme et qui étaient payés à la tâche. Donc on voit bien aussi cette évolution de la société salariale dans une France demeurée majoritairement donc rurale jusqu'aux années 30. C'est le choix de la solidarité collective intergénérationnelle, en particulier à travers la répartition en retraite face à l'épargne, qui, à travers la capitalisation, a ruiné des millions d'épargnants. Il faut savoir qu'avant-guerre, il y avait donc des systèmes de retraite par capitalisation, c'est-à-dire par placement sur les marchés financiers. Les crashs boursiers, dans les années 30, la grande crise, les retraités, comme aux États-Unis, on a pu le vivre, les salariés des États-Unis ont pu le vivre ces dernières années, le crash boursier fait que leur placement s'effondre et ils se retrouvent quasiment sans rien au moment de prendre leur retraite. Donc, avant-guerre, avant la sécurité sociale, en France, c'était le système qui prévalait et qui avait amené un bon nombre de travailleurs retraités à la ruine, puisqu'il y a eu un grand crash boursier aussi dans les années 30. Donc, la sécurité sociale va à la fois débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain à travers la maladie ou l'accident, en les protégeant contre la maladie, en versant des indemnités journalières quand ils se trouvent absents de leur travail pour cause de maladie ou accident du travail. Les aider à élever leur famille, ça c'est le rôle des caisses d'allocation familiale encore aujourd'hui. Et à vivre une retraite par le versement des pensions. Et elle va également ouvrir la voie à une spirale positive qui va conduire à consommer, à s'instruire et à avoir des loisirs puisque cette qualité de vie qui va être offerte aux salariés, au peuple, par la sécurité sociale, va aussi leur permettre d'avoir une ouverture en direction des loisirs, l'accès aux vacances, l'accès à la culture, qui n'était pas encore, loin s'en faut, d'être un acquis à ce moment-là, et qui n'est pas forcément non plus aujourd'hui un acquis pour tout le monde. Il y a encore, nous semble-t-il, un certain travail à faire sur cette question. Donc, la mise en place d'un système de protection sociale à la hauteur des besoins était, au lendemain de la guerre, une aspiration profonde de l'ensemble des habitants de notre pays. Cette demande se fondait sur un double constat. D'abord, sur celui que les assurances sociales mises en place dans les années 30, je vous faisais état tout à l'heure des pensions de retraite par capitalisation, ne couvraient qu'une partie de la population et que leur gestion atomisée, puisque c'était tout un tas de compagnies d'assurance, de mutuelles disséminées sur tout le territoire, à travers de multiples caisses, notamment sous le contrôle de la mutualité pour ce qui concerne particulièrement la maladie, était source de disparités dans l'accès aux droits. Donc il n'y avait pas un droit universel et à égalité pour tout le monde. Donc, par sa conception, le plan français de la sécurité sociale se veut universel, c'est-à-dire ouvert à l'ensemble de la population et financé et géré par les cotisants, c'est-à-dire par les salariés eux-mêmes. Et ça, ça a été les fondements de la construction de la sécurité sociale dès le début. Ambroise Croizat, donc, qui était ministre, déclarait que la généralisation du système est nécessaire et il ne peut y avoir de sécurité sociale digne de ce nom si elle ne repose sur une très large solidarité nationale. Et il faudra bien qu'un jour, que j'espère prochain, la France se décide à avoir une assurance chômage. Il faut savoir qu'à cette époque, quand ils ont construit la sécurité sociale, donc ils ont construit les quatre branches de la sécurité sociale que je citais tout à l'heure, la maladie, la famille, la retraite et le recouvrement des cotisations, il était question de créer ensuite une cinquième branche qui était la couverture en cas de chômage. Il aura fallu encore attendre un certain nombre d'années pour qu'il y ait la création de ce qu'on appelait l'assurance chômage, ce qui s'appelait auparavant les ACEDIC et aujourd'hui que l'on retrouve sous la dénomination de Pôle emploi, puisqu'il y a eu regroupement entre l'ANPE et les ACEDIC. Donc, concernant le financement, ils estimaient que faire appel au budget de l'État, c'est inévitablement subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières qui risquerait de paralyser les efforts accomplis. Mais il y a surtout une raison de fond, et c'est que la sécurité sociale doit reposer sur un effort véritable des intéressés eux-mêmes. La contribution de l'employeur et celle du salarié, c'est en réalité celle de l'entreprise, et faut-il le préciser, toute l'évolution économique et sociale d'aujourd'hui tend à associer les travailleurs à la gestion des entreprises. Donc là, pour résumer, c'était bien les cotisations que payent, qui sont encore aujourd'hui versées, on appelle les cotisations salariales et les cotisations patronales. En définitive, les deux sont composantes de la rémunération de la force de travail par l'entreprise. C'était donc ça la conception. Et dans l'esprit donc du gouvernement de l'époque, il fallait mettre sous la gestion de la sécurité sociale sous la responsabilité des travailleurs, puisqu'il s'agissait de la rémunération de leur force de travail, que ça leur appartenait donc de gérer cette masse financière. Et dans le même temps, ça préservait l'État, ça préservait la tentation politique de détourner cette masse financière à d'autres fins. Ce que l'on peut malheureusement constater aujourd'hui, par exemple par les exonérations de charges sociales qui sont décrétées par l'État et qui échappent donc de fait en grande partie au financement de la sécurité sociale. Donc les entreprises bénéficient d'exonérations de cotisations qui représente un manque à gagner à la sécurité sociale, et c'est donc par un diktat de l'État, puisque depuis la création de la sécurité sociale, malheureusement, les salariés ont perdu la gestion de leur sécurité sociale. Et concernant la gestion, il déclarait « c'est là certainement l'innovation la plus profonde qui a été apportée dans l'organisation nouvelle, le plan français de sécurité sociale entend confier à la masse des travailleurs la gestion de leur institution et, ajoute-t-il, il ne saurait nous échapper que l'application de ce principe constitue une réforme de structure d'une importance exceptionnelle pour ce qui est des accidents du travail dont la réassurance relevait jusqu'à ce jour des compagnies commerciales et pour les allocations familiales dont la gestion était purement patronale. » Donc voilà, ça resitue aussi le contexte d'avant-guerre, c'est-à-dire que un travailleur qui était mis en incapacité de travailler suite à un accident du travail se trouvait éventuellement couvert par une compagnie d'assurance qui a, elle, pour finalité de reverser des subsides à ses actionnaires. Donc on voit bien, là aussi, donc des primes d'assurance versées par les travailleurs qui vont leur être versées en partie pour ceux qui étaient assurés, puisque c'était sur la base du volontariat, donc ceux qui avaient la capacité à s'assurer eux-mêmes, individuellement, et une partie de leur cotisation était, elle, affectée à rémunérer donc les actionnaires en fin d'année. Donc, on voit bien que ce n'est pas sans importance dans cette construction, puisque depuis la loi d'avril 1898, on voit quand même que ça remonte à très loin, les compagnies d'assurance ont réalisé des profits indécents en gérant pour leur compte les blessures, les mutilations, les décès des salariés frappés au travail, sachant que si aujourd'hui il y a eu une amélioration en termes de conditions de travail, cela n'exclut pas qu'il y a encore aujourd'hui des travailleurs qui sont blessés, qui sont handicapés à vie, qui décèdent sur leur lieu de travail. À cette époque-là, c'était d'une ampleur bien plus importante. Et comme toute mesure qui se veut révolutionnaire, parce qu'il faut bien appeler la création de la sécurité sociale comme étant un acte révolutionnaire, novatrice dans l'évolution sociétale et de la vie quotidienne, la sécurité sociale a soulevé de nombreuses oppositions, des craintes, des inquiétudes, des interrogations aussi, bien sûr, de la part des structures et des personnes qui étaient déjà engagées dans des systèmes de couverture sociale, et ce, malheureusement, sont discontinués jusqu'à nos jours. Alors, la sécurité sociale, je dirais, pilier de notre protection sociale, certes, mais n'est-ce pas le colosse au pied d'argile? Alors, comme je le disais, donc, elle a été créée en 1945, et aujourd'hui, elle couvre 76,4% des prestations de protection sociale. Dès sa création, le patronat, la droite, les assurances privées et un certain nombre de mutuelles se sont opposés à la gestion démocratique de la sécurité sociale par les assurés sociaux eux-mêmes. Donc, de 45 à 67, elle a pourtant été gérée par les organisations syndicales représentatives, par des élections. Et donc, c'était l'organisation syndicale représentative, la plus représentative, qui avait la majorité dans le conseil d'administration. Et à l'époque, c'était donc la CGT, qui était majoritaire. Il n'était pas seul. En 1967, donc, le gouvernement a voté une ordonnance qui instituait le paritarisme. Donc, le paritarisme, c'est ce qui existe encore à peu près aujourd'hui, encore qu'il y a des variables. 50%, mais en 67, c'était 50% par le patronat, représentant le patronat, 50% représentant l'ensemble des organisations syndicales, toutes confondues. Alors, il y a eu encore des élections des administrateurs de la sécurité sociale jusqu'en 83 ou 84, 83, je crois, mais qui avaient peu d'impact, puisque les salariés ne représentaient plus qu'à eux seuls 50% du conseil d'administration. Et depuis donc 95, le plan Juppé, dans les conseils d'administration, ont été rajoutés des représentants de diverses associations, représentant les malades pour la branche maladie, représentant les familles dans les caisses d'allocation familiale, la mutualité, par exemple, pour la branche maladie, donc, et des personnalités qualifiées, ce qui fait qu'on est venu déséquilibrer aussi le paritarisme tel qu'il avait été institué en 67. Donc on voit bien que petit à petit, les salariés ont été dépossédés de l'appropriation de la gestion de la sécurité sociale qui pourtant est financée par le produit de leur force de travail. Donc, aujourd'hui, les réformes qui se sont succédées pour affaiblir l'intervention donc, des assurés sociaux dans la gestion de la Sécu ont dans le même temps permis de renforcer l'intervention de l'État pour mieux organiser la réappropriation de la protection sociale par le marché. Je ne sais pas si Denis Kessler vous dit quelque chose. Denis Kessler, alors je vais vous dire qui est Denis Kessler. Il a été un militant du MEDEF, il a été président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Et en 2007, il faisait une déclaration en disant que les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Il énumérait le statut de la fonction publique, les régimes spéciaux de retraite, la refonte de la sécurité sociale, le paritarisme. Et donc, tout ça pour arriver à la conclusion qu'il s'agissait aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Et donc, en quelque sorte, par sa déclaration, il sonnait le glas de la sécurité sociale tel que l'avait imaginé et créé ceux qui se sont attelés à la tâche à ce moment-là. Donc à partir de là, on a eu une offensive de tous ceux qui jusqu'à présent restaient aux côtés de la sécurité sociale, se disaient en complémentarité de la sécurité sociale. Les compagnies d'assurance, les mutuelles, un certain nombre de mutuelles, pas toutes, certaines sont encore sur les valeurs fondamentales de la sécurité sociale, mais un certain nombre tendent encore aujourd'hui à revendiquer de prendre de plus en plus des interventions relevant aujourd'hui de la sécurité sociale à leur compte, au motif que ça permettra de résorber le fameux trou de la sécurité sociale. Alors, en définitive, pour comprendre ce qu'est le fameux trou de la sécurité sociale, il faut comprendre les mécanismes de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Vous avez déjà dû entendre parler du fameux taux maximum de prélèvements obligatoires. Qui a décrété le taux maximum de prélèvements obligatoires ? Le taux maximum toléré. Qui l'a décrété ? En fait, ça vient de différentes sources, mais il y en a une qui est assez intéressante à regarder. C'est celle de l'OCDE. L'OCDE a pour mission, vous pouvez aller d'ailleurs sur leur site, c'est bien expliqué, de renforcer l'économie de ses pays membres, d'en améliorer l'efficacité, de promouvoir l'économie de marché, de développer le libre-échange et de contribuer à la croissance des pays, aussi bien industrialisés qu'en développement. Et donc, ils ont imaginé et mis à disposition de leurs États membres, qui sont les pays les plus riches, un outil dont ils usent et ils abusent à volonté, les fameux prélèvements obligatoires. Alors, il s'agit d'un instrument de mesure, des impôts directs et indirects, prélevés par l'État et les collectivités locales, ainsi que les cotisations sociales obligatoires. Donc, on additionne tout ça. Ensuite, on calcule le rapport entre la somme de l'ensemble de ces prélèvements et le PIB, le produit intérieur brut. Et le résultat nous donne, selon eux, la compétitivité du pays. Ainsi, la France serait classée parmi les plus mauvais élèves, nous dit-on. Alors, à contrario, des pays tels que les États-Unis et le Japon ont un taux de prélèvement obligatoire beaucoup plus faible. Pour autant, notamment parce qu'ils ont fait le choix de systèmes de protection sociale qui reposent, eux, sur des fonds privés, avec des mécanismes qui sont liés à l'entreprise ou à une branche professionnelle. C'est-à-dire que toutes les entreprises n'offrent pas de protection sociale à leurs salariés. Toutes les branches professionnelles n'offrent pas non plus à leurs salariés de protection sociale. Donc il y a des salariés qui ont une protection sociale et d'autres qui n'en ont pas. Alors ils ont un système qui permet de couvrir, de donner une protection sociale d'État pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans et pour les personnes âgées à partir de, je crois, 70 ans, 65 ou 70 ans. Mais entre deux, il appartient à chacun de se débrouiller ou alors d'avoir la chance d'avoir un emploi qui lui apporte une protection sociale. Donc en fait, la comparaison entre les pays de l'OCDE à partir de leur taux de prélèvement obligatoire est une pure escroquerie intellectuelle qui n'a pour unique objectif de réinjecter dans la sphère financière ce qui aujourd'hui finance la sphère publique et les systèmes de protection sociale solidaire. Donc c'est le diktat, ce que l'on appelle le diktat de l'économie néolibérale. Donc on voit bien que si, dans l'absolu, si nos cotisations de sécurité sociale, demain, passaient, même si elles étaient obligatoires, dans la sphère des compagnies d'assurance, des mutuelles, des institutions de retraite et de prévoyance, elles ne seraient plus comptabilisées comme étant des prélèvements obligatoires. C'est parce qu'elles sont versé à la sécurité sociale qui est un organisme d'État, elles sont considérées comme un prélèvement obligatoire. Alors il y a une différence fondamentale aussi entre les deux. Pourquoi dit-on que quand il s'agit d'un prélèvement obligatoire, ça échappe au marché financier? Tout simplement parce que les assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles, quand elles perçoivent une cotisation, elles ont l'obligation de constituer des provisions pour l'avenir. Provisions que n'a pas que la sécurité sociale n'a pas à constituer, puisqu'elle est garantie par l'État de payer ses prestations demain. Les mutuelles, les assurances, les institutions de prévoyance sont des organismes de droit privé. Donc, ils ont l'obligation de constituer des provisions pour, si demain ils doivent déposer le bilan, ils puissent verser les prestations à venir qui sont dues. Et donc, ces provisions sont placées sur les marchés financiers. Et donc, on voit bien l'intérêt pour les marchés financiers à ce que les cotisations sociales ne soit pas régi par la sécurité sociale, mais par des organismes de droit privé. Mais ce qui veut dire qu'en définitive, pour un même niveau de prestation, il faut payer quasiment le double de cotisation. Donc ça veut dire que pour les salariés, le système coûterait quasiment deux fois plus cher. Donc voilà, ce sont des mécanismes qui ne sont pas, bien sûr, étalés, mis sur la place publique, des mécanismes qu'on nous présente comme étant purement comptables, mais on voit bien les différences et les différences fondamentales de deux systèmes, un système solidaire et un système, lui, qui relève du marché. Donc, maintenant, si on en vient à la sécurité sociale, regardons un petit peu le fameux trou de la sécurité sociale qu'on nous érige en épouvantail régulièrement. Et une étude du ministère sur l'évolution du financement de la protection sociale qui démontre que la part salariale des cotisations sociales est passée de 31% en 90 à 40% en 2006. Donc on voit bien que les cotisations sociales n'ont pas régressé pour les salariés. Allant même jusqu'à 55% pour la branche maladie par l'introduction de la CSG. Vous savez que sur les fiches de paye, il y a la cotisation simple et ce qu'on appelle la contribution sociale généralisée. Et par les exonérations de charges sur les bas salaires, les fameuses exonérations de charges décrétées par l'État, autorisées donc aux entreprises sur les bas salaires et qui représentent un manque à gagner pour la sécurité sociale. Donc, dans son rapport sur l'exercice 2007, mais ça a été aussi réédité par la suite, la Cour des comptes a mis l'accent sur l'importance des dispositifs d'exonération coûteux et incertains. C'est la Cour des comptes qui qualifie elle-même les exonérations de charges sociales comme étant coûteux et incertains. La non-compensation de certaines de ces exonérations laisse un manque à gagner de l'ordre de 2,7 milliards pour la sécurité sociale sur une année et sont estimées par la Cour des comptes toujours non lisibles, mal contrôlées et coûteuses au regard de leur impact sur l'emploi. Parce que, bien évidemment, ces exonérations ont été décrétées en compensation d'un engagement des entreprises à créer de l'emploi. Or, force est de constater depuis des années que ça n'a eu aucun effet sur l'emploi, voire même ça a eu plutôt un effet de tirer les salaires vers le bas pour que les salaires se situent en dessous du seuil ouvrant droit à l'exonération des charges sociales. Donc ça a été aussi ce qu'on peut appeler une trappe à salaire, oui.
Quel est-il, ce seuil ?
Je ne sais plus, là en mémoire, je crois que c'est un SMIC plus un tiers de SMIC, il me semble, sous réserve. Donc, après... En 2007, l'État avait une dette de 5,1 milliards auprès de la Sécurité sociale, dette de non-compensation des exonérations, puisqu'il devait les compenser en partie. Et ce qui a obligé l'Agence de recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale à emprunter, et à emprunter pour pouvoir payer les prestations, alors que l'État lui devait de l'argent. Donc, la Sécurité sociale a emprunté pour payer des prestations et a donc payé des intérêts sur cet emprunt. Donc, on voit là encore les mécanismes financiers qui ne sont pas perdus pour tout le monde. Dans le même rapport, la Cour des comptes pointe aussi l'augmentation des sommes distribuées au titre de l'intéressement, vous savez, dans les entreprises, il y a la mise en place des systèmes d'intéressement aux résultats de l'entreprise. Ces primes d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales. Et là aussi, elles permettent aux entreprises à bloquer les salaires en compensant par des primes d'intéressement qui ne sont non soumises à cotisation et qui ne sont pas prises en compte dans le calcul pour la retraite demain. Ce qui n'est pas négligeable, qui ne sont pas prises en compte non plus dans le calcul des indemnités journalières pour maladie. Donc on voit bien aussi là, à chaque fois, les manques à gagner pour les salariés. Et donc c'est environ L'augmentation des sommes distribuées au titre de l'intéressement a augmenté d'environ 9% par an entre les années 2000 et 2005, ce qui représente quand même une somme considérable. Celle au titre de la participation, puisqu'il y a aussi des primes de participation, de 7,4% par an, et l'abondement des plans d'épargne entreprise de 8,3% par an. Et l'ensemble de ces sommes échappe totalement aux cotisations sociales. Alors que la masse salariale, dans le même temps, elle, n'a augmenté que de 3,2% par an. Donc on voit bien l'effet vase communicant qu'ont institué les entreprises. Elles ont basculé les augmentations de salaire sur différents dispositifs qui échappaient aux cotisations sociales. Tous les gouvernements qui se sont succédés, depuis que l'on parle du fameux trou de la sécurité sociale, ont tous rejeté l'idée même d'une modification du calcul des cotisations pour aller vers un calcul qui favoriserait l'emploi, les salaires et l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on fait le constat qu'une entreprise a tout intérêt, n'a pas intérêt à avoir des emplois, n'a pas intérêt à augmenter les salaires, puisque c'est sur le salaire strictement que sont assises les cotisations sociales. Il y a beaucoup d'organisations, d'associations, d'organisations politiques, d'organisations syndicales qui demandent depuis des années à ce que l'on revoie la base de calcul des cotisations pour que l'on prenne en compte les résultats financiers de l'entreprise. On voit par exemple que des entreprises très peu de main-d'œuvre, mais à haute technologie, dégagent des produits financiers, des bénéfices énormes, alors qu'ils payent très peu de cotisations parce qu'ils ont besoin de très peu de salariés. A contrario, d'autres entreprises qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, elles vont payer énormément de cotisations alors qu'elles dégagent beaucoup moins de bénéfices, voire même ne dégagent pas du tout de bénéfices quand on prend par exemple tout le mouvement associatif non lucratif qui intervient dans les services et dans le social. Où là, ça ne repose que sur les emplois humains et donc paye pour chaque salarié des cotisations sociales. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre les revenus financiers qui sont dégagés par le travail et le calcul, la façon dont sont calculées les cotisations. Et malgré plusieurs voix qui s'élèvent depuis des années, donc aucun gouvernement n'a accepté de revoir les bases de calcul des cotisations sociales. Ils ont au contraire multiplié les exonérations de cotisations qui favorisent, comme je le disais tout à l'heure, le développement des bas salaires. En comprimant les recettes, ils ont procédé au transfert de la sécurité sociale vers les complémentaires et les ménages, et ils ont organisé de fait le renoncement aux soins. Parce que de plus en plus, on voit bien, depuis des années maintenant, on a des baisses de taux de remboursement, on a des franchises qui sont instituées, 1 euro par consultation, 50 centimes par boîte de médicaments, qui restent à la charge total de l'assuré. C'est le forfait journalier hospitalier qui a subi une augmentation de 450 et quelques pourcents depuis sa création en 83 jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit bien une augmentation terrible. C'était un petit peu au départ comme la franchise des 1 euro qui a été instituée sur la consultation. Beaucoup de voix se sont élevées en disant « ça va faire comme le forfait journalier hospitalier ». Le forfait journalier hospitalier, au début, il a été minime, la somme. Aujourd'hui, il est à 18 euros par jour. Et il y a des personnes qui n'ont pas de complémentaire santé et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'incapacité de payer le forfait journalier qu'ils doivent suite à leur hospitalisation. Donc on voit quand même qu'on est arrivé à une difficulté d'accès aux soins, y compris les soins de base, puisque on voit toutes les associations caritatives sont confrontées aujourd'hui à ces difficultés, à retrouver des personnes dans des situations sanitaires catastrophiques, alors que il y a quelques années, il y avait quand même un filet de sécurité qui permettait à chacun d'accéder aux soins. Alors en 68, les honoraires étaient couverts à 75% par la sécurité sociale. Aujourd'hui, ils sont à 70%. Les médicaments, ça va de 65% à 35%, même 15% remboursés par la sécurité sociale. Et les auxiliaires médicaux, les infirmières, masseurs, kinésithérapeutes, sont passés de 75% à 60%. Autrefois, ce qu'on appelle les ALD, c'est-à-dire les personnes qui sont atteintes d'affections de longue durée, infections lourdes, étaient pris en charge à 100% pour tous les soins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on restreint de plus en plus les soins pour lesquels ils sont pris en charge à 100%. Alors que ce sont à côté des personnes qui ont des dépenses, au-delà du soin, qui ont malgré tout des dépenses par l'achat indispensable de tout un tas d'éléments qui ne sont pas pris en charge aujourd'hui par la sécurité sociale. Il y a la question des dépassements d'honoraires par les médecins. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins qui prennent des dépassements d'honoraires qui restent à la charge totale des salariés, des assurés sociaux. Sauf s'ils ont une complémentaire santé. Mais la complémentaire santé, si elle couvre l'intégralité des dépassements d'honoraires, la cotisation va être de plus en plus élevée. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des cotisations de complémentaire santé pour des personnes adultes dans les 40-50 ans à hauteur de 100-150 euros par mois sur des couvertures, s'ils veulent une couverture maximum. Donc, je le disais, en 2005, il y a eu la franchise de 1 euro sur tous les actes médicaux, qui, elle, n'est pas prise en charge par les complémentaires santé. Le forfait de 18 euros, un forfait de 18 euros sur les actes dont le tarif est égal ou supérieur à 91 euros, qui n'est pas prise en charge non plus par les complémentaires santé, hormis une surcotisation. Et la fameuse franchise de 50 centimes par boîte de médicaments et par acte paramédical, c'est-à-dire à chaque fois qu'une infirmière fait une intervention, un masseur-kinésithérapeute, il y a 50 centimes à chaque acte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, parce qu'ils ont le tiers payant, donc ils ne font pas l'avance des frais pendant un certain temps, un beau jour, ils doivent faire l'avance d'un acte médical important. Comme on n'a pas pu leur retenir toutes ces franchises, ça s'additionne. Ça s'additionne sur un compte. Et le jour où ils présentent une demande de remboursement à la sécurité sociale leur déduit la totalité des franchises, ce qui fait que pour certains, non seulement on ne leur rembourse rien, mais on leur annonce en plus qu'ils ont encore une somme à payer à la sécurité sociale en remboursement desdites franchises. On a de plus en plus de personnes qui découvrent cette situation, puisque bon, les franchises ont été mises en place en 2005, donc les additions se font, et de plus en plus de personnes se trouvent dans des difficultés financières par cet effet. Donc voilà, on voit bien au niveau de la maladie que toutes ces baisses de remboursement par la sécurité sociale ont généré un transfert sur les complémentaires santé, qui, elles, ont donc augmenté leurs cotisations, puisqu'elles augmentaient la couverture qu'elles prenaient en charge. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un déséquilibre très important et avec de plus en plus de personnes qui ne peuvent plus accéder à la complémentaire santé. Ça, c'est aussi une des évolutions que l'on voit ces dernières années. C'est de plus en plus de personnes qui renoncent à une complémentaire santé. Alors bien sûr, l'État a mis un filet de sécurité, hein, c'est la CMU, la couverture maladie universelle, CMU de base pour la sécurité sociale et la CMU complémentaire pour la partie complémentaire. Alors là, bon, on est avec, en fonction des revenus. Ensuite, il y a pour ceux qui dépassent le plafond, l'aide à la complémentaire santé par un chèque qui aide au paiement à la complémentaire santé. Là aussi, on fonctionne des revenus, mais on est sur des personnes qui sont sur des ressources très basses. Et on a toute une catégorie de personnes qui se retrouvent juste en dessus, au-dessus, et qui sont, elles, les plus en difficulté parce qu'elles n'ont pas accès à ces aides et elles n'ont pas la capacité financière à se payer une complémentaire santé. Donc, on est vraiment face à une régression sociale qui nous amène, y compris, à une régression sur le plan sanitaire. On le constate, on a des maladies telles la tuberculose qui avait totalement disparu en France, qui revient. La tuberculose, c'est la maladie de la pauvreté. Et donc, c'est parce qu'on a su créer la sécurité sociale en 1945 telle qu'elle a été créée, qu'on a pu avoir une couverture sanitaire pendant toutes ces années d'après-guerre, qu'on avait pu éradiquer la tuberculose de notre pays. Aujourd'hui, le retour de la tuberculose est le signe qu'on est dans une régression sociale et une régression donc sanitaire.
C'est dû à quoi ça ?
C'est dû à la pauvreté et au non-accès.
La hausse des prix surtout, c'est dû à quoi ?
La hausse des prix.
Par rapport à la régression qu'il y a, c'est dû à quoi ?
La régression, c'est dû au fait, ce que j'expliquais, on a réduit l'État pour réduire les prélèvements.
Non mais j'ai tout compris, hein. Il n'y a pas de problème.
D'accord.
Qu'est-ce qui choisit ça ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait ça ?
C'est les réformes gouvernementales de ces dernières. Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Oui, oui. C'est ce que je disais au début. C'est pour ça qu'au début, les pères fondateurs de la sécurité sociale disaient qu'il ne fallait surtout pas que la sécurité sociale soit gérée par l'État. Parce que l'État allait prendre des considérations financières. Or, l'objectif, c'était qu'il n'y ait surtout pas de considérations financières, mais des considérations sociales et sanitaires. Et donc, on voit bien là, par les mécanismes, le résultat. Et aujourd'hui, on est vraiment en phase de régression sociale et sanitaire. Oui.
Donc, la sécurité sociale n'était pas gérée par l'État, mais elle était quand même régie par des lois qui étaient mises en place par l'État.
Alors, la sécurité sociale était gérée par les représentants des salariés, donc les organisations syndicales. Et l'État, comme on dit dans son rôle régalien, avait la responsabilité de veiller à l'égalité de traitement pour tous les citoyens et à la conformité des décisions prises par les gestionnaires de la sécurité sociale, conformité avec le pacte républicain. Donc voilà. C'est donc l'État avait un regard de tutelle, mais pas une capacité d'intervention et d'ingérence. Et au fil des années, avec des pressions politiques diverses et variées, donc l'État a remis la main sur la sécurité sociale. Et aujourd'hui, c'est l'État qui gère la sécurité sociale, puisque l'État aujourd'hui, le trou de la sécurité sociale, en définitive, il est défini comment ? L'État dit chaque année, on donne un objectif de dépenses. Pour la maladie, on donne un objectif de dépense de santé. Voilà, on définit. L'enveloppe va être de temps. Et en général, on ne prend pas en compte l'évolution du nombre de la population, puisque la population augmente tous les ans. On ne prend pas en compte. On ne prend pas en compte d'éventuelles épidémies. On a eu la grippe H1N1, par exemple, qui a coûté... On pourrait aussi parler de l'intervention de l'État en la matière et des choix qui ont été opérés. C'est quand même la sécurité sociale qui en a fait les frais, en grande partie. Donc, on voit qu'à chaque fois, ce sont bien des choix politiques. Alors que le système, au départ, c'était on regarde les dépenses nécessaires et on met en face les cotisations en fonction de ces dépenses. Par exemple, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est ce qui se passe. Là, toutes les dépenses liées aux accidents du travail et maladies professionnelles reconnues, parce que là aussi, malheureusement, on a des difficultés à faire reconnaître les maladies professionnelles et les accidents du travail en tant que tels. Mais sont financés uniquement par des cotisations des entreprises. Et les entreprises qui ont beaucoup d'accidents de travail en leur sein ou de maladies professionnelles, bon, payent plus de cotisations. Et les cotisations sont mises en adéquation avec les dépenses. Donc, pour les accidents du travail et la maladie professionnelle, il n'y a pas de déficit. Et ce système, qui présidait avant pour l'ensemble des dépenses de l'assurance maladie, n'a pas été reconduit pour les autres dépenses que celles des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc c'est bien un choix politique qui a été fait pour pouvoir réduire les dépenses de sécurité sociale et les transférer sur la sphère privée. Alors, dans la sécurité sociale, bien sûr, on parle beaucoup de la maladie, parce que c'est quelque chose qui touche aussi chacun. Mais il y a aussi la question de la retraite. Bon, vous en avez entendu parler. On a eu un certain nombre de manifestations ces derniers mois concernant la retraite. Donc, le gouvernement a quand même malgré tout passé en force sa réforme, qui repousse l'âge légal à 62 ans et l'âge du taux plein à 67 ans. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous interroger. C'est quoi l'âge légal à 62 ans et l'âge à taux plein à 67 ans? Il faut savoir qu'on a le droit donc de partir à 62 ans. Vous savez que la pension retraite, il y a une partie versée par la Sécurité sociale et une partie versée par les retraites complémentaires. Les retraites complémentaires, elles, n'ont pas l'obligation de verser le taux plein, ce qu'on appelle le taux plein, à partir de l'âge légal de 60... Alors, c'était 60 ans jusqu'à présent. Donc, c'est par un artifice que les caisses de retraite se sont dotées des moyens pour payer le taux plein entre 60 ans et 65 ans. Sinon, les personnes partaient à 60 ans, mais n'auraient pas eu l'intégralité de leur retraite complémentaire qui leur aurait été versée. Et donc, c'est une négociation qui est revue tous les ans. Donc, tous les ans, la question revient sur la table. Et là, les négociations viennent de se rouvrir suite à la réforme, puisque les retraites complémentaires, maintenant, il va falloir, pour que les personnes puissent partir à taux plein, à 62 ans, il va falloir que la partie patronale et les organisations syndicales de salariés trouvent un accord pour permettre ces départs à taux plein à 62 ans. Sinon, si les personnes veulent leur taux plein, ils devront attendre 67 ans.
Oui. Ça veut dire que les caisses de retraite complémentaires ne sont utiles qu'aux gens qui partent entre 62 et 67 ans?
Non. Non, non, elles sont utiles même pour tout le monde. Elles sont utiles pour tout le monde. C'est simplement sur la notion de taux plein. C'est-à-dire qu'on peut décider de partir avant l'âge légal. Bon. Arrivé à l'âge légal, on va nous verser une retraite, mais qui sera amputée proportionnellement par rapport aux années que l'on n'a pas travaillé.
Par rapport aux 42 ans,
je... Oui, et là, par rapport entre les 62 et les 67 ans, si ils n'arrivent pas à trouver un accord conventionnel. Donc, on voit que là aussi, sur la retraite, c'est très fragile, parce que ça tient à deux paramètres, la retraite de la sécurité sociale d'une part, et les retraites complémentaires d'autre part. Et là, la retraite de la sécurité sociale, c'est l'État qui décide. Et les retraites complémentaires, c'est encore aujourd'hui les organisations syndicales et le patronat qui négocient avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la capacité à avoir un rapport de force suffisant pour faire plier à un moment donné le patronat sur ces questions.
Et je comprends pas, ça veut dire que le taux plein, c'est seulement si on part à 67 ans, quel que soit le nombre d'années auquel qu'on a travaillé ou pas ?
S'il n'y a pas d'accord au niveau des retraites complémentaires entre les organisations syndicales et le patronat, oui, il y aura, pour avoir le taux plein, il faudra aller jusqu'à 67 ans pour la partie complémentaire.
Quelle que soit le nombre d'années qu'on a travaillé.
Oui. Alors, jusqu'à présent, c'était de 60 à 65 ans. jusqu'à présent, ils ont toujours pu trouver un accord. Mais un accord fragile, parce qu'un accord qui est révisable tous les ans.
Mais il n'y a pas de raison que ça change, alors, enfin, puisque le décalage est toujours le même, il y a toujours que 5 ans, ça changerait.
Espérons-le. Espérons-le. Il faut savoir quand même que on fait toujours le lien entre la retraite et l'emploi, hein, bon, avec cette contradiction où aujourd'hui on a un taux de chômage très élevé et on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que avec la pyramide d'âge que nous avons en France, nous allons nous retrouver d'ici les années 2020-2025 en manque de population active. Donc, le rallongement de du temps de travail qui est aujourd'hui mis en œuvre, il n'est pas tant pour aujourd'hui, mais beaucoup plus pour les perspectives de demain. Voilà.
Comment ? C'est un bon point. Enfin,
tout dépend à quel niveau. Si on se situe au niveau de l'hexagone, enfermé, replié sur l'hexagone, on peut se dire oui. Mais quand on regarde au niveau mondial, qu'on voit la nécessité qui va être de plus en plus importante pour tout un tas de populations de migrer, pour diverses raisons, parce qu'ils ne pourront plus vivre là où ils sont. C'est déjà le cas aujourd'hui. Les flux de migration sont très importants et c'est des populations, pour survivre, qui sont contraintes de se déraciner et de venir. Donc, se replier sur l'hexagone en se disant on va s'auto-protéger, en fait, se replier sur nous-mêmes, et on va rallonger le temps de travail pour pouvoir avoir la main d'œuvre suffisante d'ici 15-20 ans, c'est pas forcément la solution la plus humaniste qui soit et la plus juste. Et la plus juste. Hein, on est toujours dans le rapport nord-sud, les pays riches, les pays pauvres. Il y a aussi toutes ces questions qui ont besoin d'être intégrées dans la réflexion. Et ça ne concerne pas, bien sûr, que la France. Ça concerne l'ensemble des pays développés qui, aujourd'hui, ont malgré tout tous cette tendance de repli sur soi. Donc, on a aussi un autre débat, c'est le débat qu'on entend sur la dépendance, la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, il y a toute une partie... Enfin, normalement, ça devrait être couvert par la sécurité sociale. Ce sont des prestations qui doivent relever naturellement de la protection sociale, de la sécurité sociale. Or là, ce qui est mis en chantier, on détourne... On exclut un financement par la sécurité sociale, majoritairement par la sécurité sociale, et on imagine d'aller chercher sur sur le recours sur succession, c'est-à-dire une fois que la personne a décédé, si elle laisse un héritage, on prendra sur la part d'héritage les dépenses que la société a eu pour sa dépendance. Donc ce qui veut dire que les personnes qui ont les ressources nécessaires pourront se payer les aides à domicile, etc., sans que ça ne vienne prendre sur leur patrimoine, sur la succession demain à leurs héritiers. Par contre, les autres, qui auront... pas les moyens nécessaires, le peu qu'il pourrait laisser en succession, ce sera repris pour remboursement des prestations qui leur ont été versées avant. On est déjà là dans un dispositif qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent, qui n'est pas des plus justes. Dans le même temps, certains avancent l'idée d'une cotisation obligatoire pour les plus de 50 ans, à partir de 50 ans. Donc, une nouvelle cotisation qui serait rendue obligatoire. Mais comme je le disais au début, comme il ne faut pas qu'elle vienne augmenter le taux de prélèvement obligatoire, ça ne sera pas versé à la sécurité sociale. ce sera versé aux organismes complémentaires. Donc, pour, mettons, 10 euros qui seraient versés nécessaires si on le versait à la Sécurité sociale, pour couvrir les soins, là, il faudra verser 20 euros parce qu'il y aura le mécanisme des fameuses provisions que les organismes complémentaires sont obligés de constituer. Vous voyez ? Donc voilà, on est là, on a vraiment la démonstration de la perversité de ces transferts de la Sécurité sociale vers les complémentaires. Et la question de la dépendance n'est pas une question anodine, hein, puisque on sait qu'on a de plus en plus de personnes qui vont être confrontées à cette situation, nous-mêmes très certainement, il y a de grandes chances pour que nous-mêmes, un jour, nous arrivions à une situation de dépendance. Alors la dépendance, elle est multiple et elle est à différents degrés, mais toute société qui se veut être de progrès social met tout en œuvre pour que toute personne puisse vivre de sa naissance à sa mort dans la plus grande dignité. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est malheureusement pas le cas déjà pour un certain nombre de personnes en fin de vie. Et on peut douter que les moyens qui sont là avancés aujourd'hui puissent y suffire. La branche famille, ce sont les allocations familiales, hein, c'est les aides au logement, que vous avez entendu parler, mais c'est aussi le financement, par exemple, de crèches pour la garde des enfants. Un élément pour montrer aussi l'appauvrissement de la société, l'augmentation du nombre d'allocations logement qui ont été versées en 2009 était de 6,6% contre 7,6% en 2008. Donc, en fait, on voit bien que tous les ans, on a une évolution importante de personnes qui accèdent à l'aide à l'allocation logement, ce qui est un signe d'appauvrissement de la société, parce que c'est pas les plafonds qui augmentent. D'ailleurs, ils ont plutôt tendance à baisser. Dans le même temps, alors que la France a un taux de fécondité supérieur par rapport à bon nombre de pays européens, hein, je crois qu'on arrive en deuxième position derrière l'Irlande. On les a doublés, ça y est, bon. Donc, la question des structures de garde pour les jeunes enfants, aujourd'hui, est une vraie problématique. Le Fonds national d'action sociale des CAF, qui est destiné en grande partie pour le financement des crèches collectives, a été divisé par deux, ce qui a privé donc les collectivités locales de financement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance. Et au profit de quoi nous a-t-on dit, à un moment donné, il fallait développer les crèches privées. Sauf qu'on a bien vu que les crèches privées, ça a été un grand flop. Très peu de crèches privées ont vu le jour, et beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, ont coulé aussi sec, parce que les entreprises n'étaient pas prêtes à financer, parce que c'était le pari était que les entreprises allaient financer, mais les entreprises n'étaient pas prêtes à financer ce type de structure. Donc on est très loin d'atteindre l'objectif qui avait été annoncé par le gouvernement. Il avait dit on va créer 200 000 places d'accueil, dont 100 000 en crèche d'ici 2012, et on en est bien loin. Alors que dans le même temps, on a un taux de fécondité qui est fort heureusement dans une moyenne assez haute. Donc voilà, en gros, retracer les évolutions de la sécurité sociale. Alors, peut-être deux mots sur Pôle emploi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'origine, ça devait être l'assurance chômage devait être la cinquième branche de la sécurité sociale. Bon, il en a été autrement. Et grande idée qu'a eu le gouvernement, ça a été donc de faire fusionner la NPE et les ACEDIC. Alors la NPE, c'est le placement des demandeurs d'emploi, et les ACEDIC, c'était le paiement des allocations chômage. Ce sont deux métiers qui n'ont strictement rien à voir, qui sont totalement différents, et on a, le gouvernement a imaginé que les salariés pourraient faire tout en même temps. Aujourd'hui, c'est un échec terrible, avec des conditions de travail à Pôle emploi qui sont catastrophiques, et des conditions d'accueil des privés d'emploi qui sont encore plus détestables. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce qu'il n'y a jamais ce genre de décision sans qu'il y ait derrière quelque chose, l'arbre qui cache la forêt. Alors, en définitive, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui avait été publié en 2006 et qui disait que la plus-value du secteur public, du service public, c'est-à-dire de l'ANPE, quand il y met les moyens, est nettement supérieure à celle des opérateurs privés. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une expérimentation de confier à des boîtes d'intérim le placement des demandeurs d'emploi. Et en définitive, à la fin de cette expérimentation, il s'est avéré que non seulement ils plaçaient moins de demandeurs d'emploi, mais qu'en plus, c'était pour un coût trois fois plus élevé que la NPE. Eh bien, malgré ce résultat, révélé y compris dénoncé par la Cour des comptes, le gouvernement a décidé donc de fusionner l'ANPE et les ACEDIC pour mieux accompagner ce transfert et a donc reconduit l'expérimentation en confiant 320 000 placements de chômeurs d'ici à 2011 à des opérateurs privés. Donc on voit bien que même quand les opérateurs privés font la preuve d'un échec et la preuve qu'ils le font à coût financier beaucoup plus élevé, on voit bien qu'on passe quand même en force et on continue à vouloir leur transférer quelque chose qui relevait jusqu'à présent du service public exclusivement. Donc voilà, donc... Oui.
Mais pourquoi alors justement leur transférer si c'est...
Ben, on est toujours dans la même logique. Le placement des demandeurs d'emploi aujourd'hui et jusqu'à présent donc était opéré jusqu'à il y a encore quelque temps l'ANPE. L'ANPE qui est un service public pur. Comme il faut réduire les coûts au niveau des services publics, on est encore là dans la même pratique de transfert vers les opérateurs privés. On n'est pas dans la recherche qualitative du placement des demandeurs d'emploi. On n'est pas non plus dans la recherche d'une économie sur le plan strictement financier. On est simplement dans la recherche d'une réduction des coûts du service public. Et donc on le transfère aux opérateurs privés qui, eux, vont faire de l'argent dessus. Ils vont faire de l'argent dessus.
Donc ça va augmenter la croissance.
Oui, alors là, ça va augmenter les dividendes des actionnaires, mais la croissance, je ne suis pas sûre.
C'est l'argent qui comptera dans l'économie, qui comptera dans le marché.
Oui, mais qui n'est pas réinvesti. Mais c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti.
Mais sur le plan brut, ça rentrera, les services publics ne comptent-ils dans le pays.
Mais dans la mesure où il n'y a pas de réinvestissement, c'est aussi ça dont souffre l'économie du pays. C'est qu'on est plus sur la rémunération de l'actionnariat que de l'investissement aujourd'hui. C'est toute la question des salaires et des grands patrons, des parachutes dorés, On n'est pas dans une démarche d'investissement économique dans tous les pans de la société, de l'industrie. Il n'y a pas véritablement de plan industriel en France, alors qu'on a les moyens financiers. Il y a une masse financière aujourd'hui qui existe. Et donc on est vraiment sur la question fondamentale. Et qui est une vraie question de choix de société, c'est la répartition de la richesse. Et donc, et les fondements de la sécurité sociale ont été aussi sur ces bases-là. Ça a été une nouvelle répartition de la richesse décidée après-guerre, puisqu'on a décidé d'affecter des cotisations en plus de la rémunération. Il faut se resituer hein, quand même. Hein. C'est que il y a eu la capacité à ce moment-là d'imposer au patronat de payer des cotisations en plus de la rémunération de leurs salariés. Alors c'était dû aussi à l'attitude d'un certain nombre d'entreprises françaises pendant la guerre, attitude de collaboration, etc. Il y avait tous ces stigmates qui étaient présents, hein, tous ces traumatismes présents, qui faisaient que le rapport de force n'était pas le même. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, les rapports de force se sont inversés, mais on voit bien quand le rapport de force est inversé, tout rebascule et la répartition des richesses, elle a rebasculé, elle aussi, au détriment des salariés qui, eux, produisent la richesse. Donc, voilà, globalement, toute l'architecture de ces décennies, depuis la création de la sécurité sociale, et à chaque fois, on retrouve les mêmes mécanismes pour les mêmes finalités.
Les salariés qui cotisent à la sécurité sociale, ce sont les personnes qui sont salariées dans des entreprises françaises. Enfin, des entreprises basées en France. Ce sont les gens qui travaillent en France ou les gens de nationalité française ou est-ce qu'il y a des
Non, ce sont toutes les entreprises sur le sol français.
Donc les Français expatriés, ils sont sous quel régime ?
Alors là, ça dépend. Ça dépend de leur statut. Mais bien souvent, il y a des accords. Concernant la maladie, il y a des accords avec un certain nombre de pays. S'il n'y a pas d'accord dans ce cas-là, il y a des systèmes de rapatriement. Et en règle générale, ils cotisent à la retraite ici. Si ce sont des entreprises basées en France et qui envoient donc des salariés dans des pays étrangers. Et si l'entreprise est basée en France. Hein, voilà. Si c'est un salarié, quelqu'un qui va s'installer à l'étranger, il a le régime du pays où il est. Alors après, il y a aussi des accords entre différents pays pour la retraite, etc. Mais là, ça devient plus complexe, là. Mais autrement, toute entreprise, quelle qu'elle soit, qui a des salariés en France, doit payer les cotisations. Un certain nombre d'entreprises ont essayé d'y échapper en basant leur siège social en Angleterre, par exemple. On a eu cette grande mode, les sièges sociaux partaient à Londres, et parce qu'ils pensaient qu'ils allaient échapper aux cotisations sociales. Donc ils ont essayé, ils ont perdu. Donc ils sont revenus. Donc voilà. Mais il y a eu cette tentative. Il y a eu cette tentative. Alors par exemple, le système anglais, c'est un système totalement étatisé. Totalement, il n'y a pas de cotisation sociale, c'est les impôts. C'est les impôts. Donc, quand on parle des systèmes suédois, par exemple le Danemark, c'est pareil. Tout est pris en charge par l'impôt. Et avec des couvertures sociales qui sont élevées. Hein.
Ils ont tout regroupé.
Oui, oui. Mais c'est l'État. C'est l'État. Tout est étatisé.
Donc c'est aussi plus... Il y a aussi une partie, évidemment, qui vient des salaires à partir d'un impôt qui est basé sur le revenu ou des choses comme ça, mais c'est pas directement considéré comme...
Voilà.
En France, alors, quand on finance la sécurité sociale, quand il y a des exonérations de charges sociales qui sont compensées par l'État, c'est aussi un peu ce phénomène-là où on vient mélanger... En théorie, si les financements sont faits, en tout cas, on arrive à mélanger les différentes ressources de l'État.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on commence, comme la CSG. La CSG, c'est quelque chose de... la CSG, c'est bâtard. C'est contribution sociale généralisée. Prélevée sur le salaire, mais c'est pas une cotisation. C'est une contribution sociale généralisée. Bon. Voilà, c'est en ça que je dis que c'est un peu bâtard. Mais ça a été fait volontairement pour commencer à remettre en cause le système de cotisation basé sur le salaire.
De toute façon, ceux qui demandent à ce qu'on revoie le... complètement le financement de la sécurité sociale, ça revient à ça. C'est parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la part des salaires a diminué et qu'on voit bien qu'il y a une partie oui. financière qui n'est pas... Donc le but, c'est de bien d'élargir ce qu'on appelle
oui.
l'élargir l'assiette.
Oui, mais sur les plus-values.
Oui.
Que là, la CSG, ça reste sur le salaire, strictement.
Oui, bien sûr, oui.
Ça ne va pas sur les profits. Voilà, donc... Mais oui, ça, il y a de toute façon à remettre à plat le système de cotisation, ça c'est évident. Mais on voit bien que quand ils ont voulu, le seul moment où ils ont accepté de remettre un peu à plat le système des cotisations, ça a été quand ils ont introduit la CSG, et ça n'a rien changé fondamentalement. Parce que de toute façon, la base de prélèvement est la même. Donc ça n'a strictement rien modifié globalement sur le fond. Prenez le système suédois. Il était avant un système de retraite complètement étatisé, donc par répartition comme le nôtre. Hein. Ils ont négocié, c'est un pays où on négocie beaucoup, où on a des relations sociales, un dialogue social très, très ouvert. Et ils ont trouvé, ils ont mis en place un système qui venait mettre un peu de capitalisation. Manque de chance, ils l'ont fait juste avant la crise. Résultat, aujourd'hui, ils se retrouvent avec un effondrement des taux de pension. Donc on voit bien, on n'a aucun intérêt, les salariés n'ont aucun intérêt à aller jouer sur ce marché-là. Le système de répartition est le système le plus sûr qui soit, et c'est celui qui a permis, jusqu'à présent, d'avoir un équilibre social, équilibre qui est en train de se réduire, hein, puisque de toute façon les pensions ne suivent pas l'évolution qu'elles devraient suivre, l'évolution du coût de la vie, tout comme les salaires.
Enfin, le système le plus sûr qui soit dans l'économie qu'on a actuellement.
Dans l'économie actuelle.
Parce que, par exemple, c'est un système qui prend ce qui est travaillé aujourd'hui pour le donner à ceux qui ont travaillé hier. Mais s'il y a, par exemple, une épidémie ou un grand accident qui dévaste la population active, dans ce cas-là, on aura le problème que la population active ne pourra plus subvenir. Et même si ça arrive brutalement, ça peut être une guerre, ça peut être une épidémie, je ne sais quoi, pas quelque chose qu'on voit, qu'on a le temps de prévoir à l'avance, on se retrouvera dans une situation où la population active ne pourra plus, dans l'immédiat, subvenir aux besoins des anciens.
Oui. Mais c'est là où vient justement, c'est là où intervient l'État.
Et on peut facilement démontrer que si, par exemple, le système par répartition se casse la gueule, le système par capitalisation, il se cassera aussi bien la gueule.
De toute façon.
Pour les mêmes raisons. Donc, de toute façon, le système par répartition se casse la gueule, il n'y en a pas un autre qui survivra non plus.
Ouais.
Supposer que, comme le système par répartition va se casser la gueule, il faut en trouver un autre alternatif, c'est
non, simplement que le système par répartition a aussi ses défauts. Et
oui, mais il n'y en a pas.
Considérer que c'est le moins mauvais.
Ouais.
C'est pas évident, mais c'est le moins mauvais. Prenez-le dans ce sens-là.
Le système par répartition, le défaut qu'il a, c'est qu'il est au niveau de ce qu'on l'alimente. Je dirais. C'est tout. Autrement, il est d'une stabilité redoutable, ce qui n'est pas le cas du système par capitalisation.
Donc le système par répartition, c'est celui qui voulait être instauré après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est celui qui a été instauré, qui est toujours en cours aujourd'hui pour la sécurité sociale. Hein.
Donc par opposition, le système par capitalisation, c'est ce vers quoi tend...
Ce sont tous les fonds de pension. Quand on nous, dans certaines entreprises, où on préfère plutôt que de donner une augmentation de salaire, un plan d'épargne retraite. Là, ce sont des placements. C'est de la retraite par capitalisation. Les États-Unis, le drame pour les États-Unis, c'est que leur retraite est essentiellement basée sur les fonds de pension.
Ce sont des fois les entreprises qui les gèrent.
Oui.
Il fait que l'entreprise ferme.
Tout s'écroule.
Les General Motors qui ont...
Oui, General Motors.
Des milliers de salariés qui ont cotisé pendant des années et qui voient les General Motors se casser la figure. C'est fini, plus de retraite.
Alors après, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, mais comment on peut s'en sortir?
Ben, il faut ressortir des belles laines, en fait.
Non, mais il faut se resituer dans la France après-guerre, se dire un pays dévasté, un pays économiquement laminé, qui a été en capacité, par un choix politique, par un choix de société, d'avoir bâti la sécurité sociale telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Alors elle n'a pas été construite en un jour, hein, ça a été progressif. Mais nous dire aujourd'hui, quand on voit les capitaux qu'il y a dans ce pays, quand on voit les masses financières qui circulent dans ce pays, et au-delà, nous dire aujourd'hui qu'on n'a plus les moyens de se payer une protection sociale de haut niveau, c'est une hérésie. C'est une hérésie. C'est bien un choix de société. Et le choix de société aujourd'hui qui est fait, c'est le choix de société qui est fait par l'Europe et au niveau de la mondialisation, c'est le choix des capitaux. Donc voilà un peu, j'espère que j'ai réussi à vous retracer de manière assez, je dirais pas synthétique, mais assez claire un petit peu, bon, la progression et surtout les mécanismes. Surtout les mécanismes.